Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
L'Arche d'Alliance, ce n'est pas un bibelot, et on ne joue pas avec lui, cet objet, et on ne joue pas. Et c'est de la haute tension, comme nous le disions dans le dernier épisode. Et les Philistins qui avaient mis main basse sur l'Arche lors d'une bataille s'en sont repentis, parce qu'ils avaient des pustules, des tumeurs, et ils se sont empressés de faire remonter l'Arche d'Alliance vers Israël, sur les monts de Judée, à partir des plaines, des plaines de la Méditerranée, où ils habitaient, les Philistins, eux. Et elle arrive à Beth-Shemesh, donc dans tout le territoire des Israélites, l'arche avec les deux vaches, et sont offertes en sacrifice de remerciement, d'action de grâce, si on peut dire. Et les gens de Beth-Shemesh demandent à leurs voisins du nord-est, sur la montagne, de venir prendre l'arche. Donc ils ont remarqué que tout le monde ne s'est pas réjoui à Beth-Shemesh, et donc il y en a des gens qui sont morts. Et donc, venez la prendre, on veut pas quand même garder cet objet un peu terrifiant parmi nous. C'est ainsi qu'elle est transférée à Kiryat Yarim, la cité ou la bourgade des bois. On la place dans la maison d'Aminadab, un monsieur dont le nom nous est donné, où bien des années après, et à peu près 70 ans, autant qu'on peut calculer les choses, avec David, nous la retrouvons. On la retrouve maintenant. David, je vous le redis, donc a pris Jérusalem, il en fait sa capitale, il a une belle maison là-bas, mais Dieu est encore dans la campagne, dans un bourg, une bourgade des bois, et un petit peu tout seul, donc un peu à l'écart. Et ça gêne David tout de même, qui est toujours tout près de Dieu, et donc il veut faire quelque chose. Plein d'enthousiasme, David, accompagné de toute l'élite du peuple et de toute l'armée, se rend à cette ville des forêts, ou cette bourgade des forêts, où trône discrètement l'arche à 723 mètres d'altitude. Non, 723 mètres d'altitude. Ça rappelle que quand j'étais évêque de Mende en Lozère, l'évêché était à 730 mètres à peu près d'altitude. Mais dès qu'on quittait Mende, en Lozère, tout de suite, on a des cols de 1200 mètres, 1000 mètres, tout autour. C'est le département de la Lozère et le département de France qui est le plus élevé en altitude moyenne. Enfin, je forme la parenthèse, vous voyez qu'on se souvient quand même de sa propre histoire. Et il s'agit donc de faire monter à Jérusalem, en fait, la colline de Sion ne dépasse guère 700 mètres, tout de même. Et seul l'emplacement du futur temple, qui est un petit peu au nord, monte à 740 mètres. Donc tout ça, c'est l'attitude de l'évêché de Mende. Ici, nous sommes à 100, là où j'habite, donc c'est assez plat, tout loin. Encore, il y a des collines, Rangueil, tout autour, il y a Beth-David, etc. C'est un peu comme Jérusalem, un peu comme Rome, il y a différentes collines. Mais l'évêché, l'archevêché où je me trouve actuellement, c'est à 100 les 150 mètres, je crois, d'altitude à peu près, grosso modo. Et donc, vous voyez, j'ai baissé. Et donc, il s'agit de faire monter à Jérusalem l'arche, et Jérusalem s'est faite belle par les soins de David, comme celle qui descendra d'auprès de Dieu, que j'évoquais l'autre jour, et telle que l'a décrit l'Apocalypse au chapitre 21e, donc l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse. Mais ici, c'est Dieu qui monte vers elle, elle ne descend pas du ciel auprès de Dieu, mais c'est Dieu qui monte vers elle en marche triomphale pour aller à la capitale sur cet éperon rocheux qu'est Jérusalem, cité de la paix. De nouveau, on installe l'arche sur un chariot neuf, les fils d'Aminadab, Uzza et Ahio, donc lui font escorte, l'un à côté et l'autre devant. Tout le monde s'est mis en marche dans la joie. Pas seulement en marche, puisque David et le peuple dansent devant Dieu. David et toute la maison d'Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant au son des sitars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Et c'est à une véritable et une totale liturgie que se livrent David et tout son peuple. Rien n'y manque, ni la musique, ni les chants, ni la danse. Le Seigneur est aimé avec toute la ferveur dont l'homme est capable, lui qui n'est pas un pur esprit, mais aussi un corps sensible et expressif. Tous dansent devant Dieu de toute leur force, comme la prière du Shema Israël demande à chaque fidèle d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et David n'est pas un homme de demi-mesure, c'est de tout son cœur qu'il aime son Dieu, comme Dieu lui-même le reconnaît et dans plusieurs endroits de la Bible, il est très sensible. Et c'est de tout son être, de toute sa force, qu'il exprime publiquement cette prédilection jusqu'à la danse sacrée. Car il s'agit bien d'une danse sacrée, c'est-à-dire d'une danse qui trouve toute sa dimension dans l'extase qu'elle procure vers Dieu. L'extase, ça veut dire de sortir de soi pour aller vers l'autre, normalement. Le sacrifice est un repas sacré où l'homme est reçu comme convive de Dieu, donc il s'assoit à sa table, on est convive, c'est-à-dire on vit ensemble, convivere, ça veut dire vivre ensemble. Et de même, la danse sacrée l'introduit dans l'exaltation de la pleine communion avec lui. Et dans le premier livre de Samuel, il est fait état de ces danses ou transes extatiques. Et Saül, après son onction, au moment où Dieu lui change le cœur et où l'Esprit de Dieu fonce sur lui, entre en délire, c'est le Saül, le premier roi, en délire au milieu d'une troupe de prophètes, ce qui étonne tout le monde. Saül ne devant pas être porté naturellement à ces manifestations mystiques, et qui d'ailleurs peuvent être aussi sujettes à caution, comme nous le savons. Donc, il nous restera à voir un peu qu'est-ce que signifie cette danse et de donc qu'est-ce qu'elle produira comme effet.